Bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Bon, je connais l'association Dorothée Nicolas Defus depuis longtemps. J'aurais dû venir depuis longtemps d'ailleurs, mais j'ai jamais trouvé le temps. Je suis aussi heureux d'être à Saint-Maurice là, pour l'année du 1500e, parce que Saint-Maurice, c'est quand même un lieu pour un chrétien roman extrêmement important. J'avais un peu peur parce que quand on intervient en dernier dans la journée, on risque d'être un peu en décalage par rapport aux précédents intervenants, mais c'est pas mon cas. Vous verrez qu'il y a une très grande communion de pensée avec les interventions précédentes. Je note deux rapprochements avec Madame Novak. Moi aussi, je suis un migrant, mais je suis pas un migrant qui a une vie aussi compliquée que Madame Novak. Je n'ai pas traversé la guerre. Je suis venu de Bourgogne il y a 25 ans. J'ai fait ma formation en Bourgogne sur un doctorat qui portait sur les travaux de jeunesse de Keynes, les grands économistes Keynes, John Maynard Keynes, mais pas les travaux donc des années 30, les travaux des années 20-30. Un jour, mon patron est venu avec un bouquin, il me dit « tu devrais lire ça ». Donc j'ai regardé, puis ça m'a intéressé, et je me suis passionné pour Keynes, ce jeune Keynes. C'est intéressant parce que Keynes, il a une pensée, et il considérait que l'économie politique était une science morale. Donc il a toujours eu une dimension éthique à sa pensée, contrairement à d'autres auteurs en économie. Et cette dimension éthique ne m'a jamais lâché, en quelque sorte. Et Fribourg a cherché un professeur, et donc j'ai eu la chance d'être recruté, justement grâce à ça, grâce à cette thèse sur Keynes. Et donc je dois dire merci à Keynes, quand même. Bon, ensuite, à Fribourg, donc j'ai été recruté pour enseigner la pensée économique et l'histoire économique. Et dans la pensée économique, j'avais un pensum sur la doctrine sociale. Et c'est là que j'ai découvert la doctrine sociale de l'Église, avec beaucoup de bonheur, d'ailleurs. Elle aussi ne m'a pas lâché. Ensuite, j'ai fait des cours avec le professeur Michel, que certains connaissent ici, avec le professeur Piton. La doctrine sociale ne m'a jamais, m'a toujours poursuivi. Vous voyez, je pense qu'elle est de plus en plus actuelle aujourd'hui. Et encore plus avec les travaux du pape François. Alors, quand Nicolas m'a dit, voilà, il faut parler de la crise, c'est un peu comme celui du menace ce matin, je me suis dit, aïe, 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 aïe. Crise, bilan, perspective et interrogation. Le monde entier, quoi. Alors, j'ai pris un angle d'attaque. J'ai pris un angle d'attaque et j'ai essayé de voir quels étaient les défis éthiques qui sont liés à la crise actuelle. Alors d'abord, bien sûr, pour en parler, il faut quand même définir ce que c'est que la crise. En fait, on a des crises. En économie, on distingue, je prends le point de vue de l'économiste, hein, en économiste, on distingue deux types de crises. On a des crises conjoncturelles, simplement, vous savez, ça monte, ça descend, il y a moins de croissance, plus de croissance. Là. Beaucoup d'économistes en sont restés là, malheureusement, mais aussi, dans notre histoire, nous avons connu des crises structurelles. Les crises structurelles, c'est beaucoup plus grave. La dernière que nous avons connue, c'est celle des années 30. Et celle que nous connaissons aujourd'hui s'apparente à celle des années 30. C'est-à-dire que c'est une crise qui touche notre mode de production et notre mode de consommation. Nous devons produire autrement et nous devons consommer autrement. Avec, bien sûr, son cortège de chômage et de difficultés, à la fois au niveau de la pensée, on a une crise intellectuelle et on a une crise morale, que le pape souligne à l'envi, mais qui est juste. On a ces deux, donc cette multiple crise, on a des crises en fait. Et c'est pour ça que je pensais important de regarder quels étaient les défis éthiques auxquels nous confronte cette crise. Alors, l'historien de l'économie dirait que pour moi, il y a vraiment trois phénomènes nouveaux dans la période contemporaine. Il y a des phénomènes redondants en histoire, par exemple l'immigration. On en a parlé ce matin, mais ça, c'est un phénomène redondant. Il y a plusieurs dizaines de millions d'Européens qui sont partis aux États-Unis au XIXe siècle. Donc, il y a eu tout le temps des migrations dans le monde. Donc, l'immigration, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau pour nous, bien sûr, parce qu'on ne les a jamais connus à ce niveau-là. Bon, j'ai appris l'autre jour que à Fribourg, par exemple, en Suisse, vous avez 250 personnes qui arrivent par jour sur la frontière de l'Est, et vous avez à Fribourg 75 jeunes, on appelle ça des mineurs non accompagnés, qui sont entrés, donc que le canton de Fribourg doit s'occuper. Donc c'est un phénomène qu'on n'a jamais connu, sauf depuis la crise des Balkans, mais c'est redondant en économie. Alors qu'est-ce qui est vraiment nouveau? Ce qui est vraiment nouveau, je crois que c'est, d'une part, le libre-échange généralisé des marchandises et des capitaux, au niveau mondial. On avait connu ça en Europe à la fin du XIXe siècle, avec les Talons, mais c'était circonscrit à l'Europe. Chaque pays, on avait la colonisation. À l'époque, chaque pays avait des zones commerciales, avait des zones monétaires, etc. Là, c'est fini. Donc, on a une libre circulation des marchandises et des capitaux au niveau mondial. Ah, bien entendu, avec bien sûr l'apparition de la Chine ou l'émergence de la Chine, qui est une nouvelle puissance. Alors, ça change profondément la donne, bien sûr, pour l'industrie.